Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, l'émission de l'association Picassoft, l'association UTCN qui héberge des services web alternatifs libres et qui promeut la culture libre. On est de retour au studio de Graphite, on est très contents. Pour cela, je suis avec Stéphane et je suis avec Romain. Salut à vous deux.
Salut Audrey.
Alors aujourd'hui, on va parler d'une plateforme de formation en ligne en autonomie qui s'appelle LibreCours et surtout, on va parler d'une formation sur la culture libre et sur le droit d'auteur. Alors, on va rappeler rapidement la signification de ces deux termes, mais s'ils ne vous sont pas familiers, on vous invite à vous rendre sur radio.picassoft.net pour retrouver nos précédentes émissions sur ces sujets. On avait fait une sur la culture libre avec une interview de Yann Kervran et puis deux émissions à propos du droit d'auteur et des licences libres avec Benjamin Jean, avec Calimac. Donc, allez écouter ces émissions-là si vous le souhaitez avant, mais en deux mots. Le droit d'auteur... C'est donc un droit, ou plutôt plusieurs, dont dispose toute personne sur ses œuvres originales vis-à-vis de leurs utilisations, de leur reproduction, de la représentation de ses œuvres. C'est une branche de la propriété intellectuelle, un outil juridique donc, qui protège les œuvres et qui permet à un ou une auteur de faire valoir ses droits sur ses créations intellectuelles. Et puis deux mots sur la culture libre. Simplement, pour définir la culture libre, il est nécessaire de faire un tout petit détour, d'expliquer que par défaut, l'application du droit d'auteur est une approche tout droit réservée, c'est-à-dire que, par défaut, seul l'auteur peut réutiliser son œuvre pour en composer une autre, seul lui ou elle peut la publier ou la diffuser, et le reste du monde doit lui demander son autorisation pour en faire autant. Et le problème, alors, est plus palpable lorsque la propriété intellectuelle mène à des exploitations abusives, mais plus généralement, le problème qui se pose avec le droit d'auteur est celui de l'accès à la culture, de sa circulation, qui est de base entravé par l'approche du tout droit réservé. Donc, à partir de là, la culture libre, c'est une philosophie, c'est un mouvement politique, on pourrait dire, qui propose de passer du tout droit réservé à l'approche certains droits réservés. Donc c'est une approche qui s'appuie sur un ensemble d'outils juridiques, les licences libres, dont les licences Creative Commons, qui ont été inventées par Lawrence Lessig, qui favorisent l'accès aux œuvres, à leur diffusion, leur réutilisation, qui donnent ces droits-là au monde entier, tout en protégeant les auteurs. Voilà. Donc, la culture libre cherche in fine à permettre la libre circulation des œuvres culturelles. C'est la même philosophie que le logiciel libre. Et donc, à partir de tout ça, donc toi Stéphane, tu as créé une formation en libre avec Framasoft sur la plateforme LibreCours qui traite de ces sujets. C'est une formation qui permet de comprendre justement les ressorts juridiques de tout cela, de s'approprier les outils de la culture libre et d'y contribuer concrètement. Et toi Audric, tu as participé à cette formation donc.
Peut-être tu peux nous présenter Audric, Audrey.
Oui, c'est vrai qu'on est embarqué comme ça, excuse-moi. Donc Audric, tu as été apprenant à une première session du LibreCours LibreCulture. Tu es médiateur numérique indépendant, tu interviens en milieu scolaire, en médiathèque, dans des tiers-lieux, etc. Et voilà, tu as une forte sensibilisation à la protection des données personnelles et tu es formateur sur ces questions. Mais tu as choisi de t'investir dans la formation à la culture libre. Alors, quelle a été ta motivation à toi pour apprendre ces concepts? Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'inscrire au livre culture?
Bon, alors déjà j'avais un petit peu de temps parce que ça s'est passé pendant le confinement, donc moi une partie de mes activités était en pause et donc j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait et puis moi la culture libre c'est quelque chose qui me passionne depuis déjà quelques années. C'est en travaillant en médiathèque que j'ai vraiment eu cette découverte, cette ouverture, où j'ai commencé du coup à m'intéresser à tout ça, j'ai eu envie de creuser le sujet. Avant, je faisais de la vidéo et j'avais pour habitude de protéger du coup mes vidéos. Et ben, j'ai fait la démarche inverse. J'ai basculé toutes mes créations sous licence Creative Commons, par exemple. Et puis tout ce qui est droit d'auteur, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, étant donné que je suis maintenant auteur moi-même. J'ai écrit un livre qui est sorti là il y a quelques semaines. Il n'a pas pu être diffusé sous licence libre. Ça c'est un peu dommage parce que pour l'instant, bah, c'est mon éditeur qui a le dernier mot là-dessus. Mais dès que je peux, moi, partager. Mon contenu, les créations, tout ce que je fais, tout ce que je produis, je le fais, je mets des licences libres, et puis ça favorise un petit peu tout ça. Comme je viens aussi du monde des Fab Labs, les Fab Labs ne pourraient pas vivre sans la culture libre. Ça évite à chaque fois de réinventer la roue. Je peux regarder sur Internet un projet qui existe, qui a été fait ailleurs dans le monde, je peux m'en inspirer, le réutiliser, le modifier, et puis à mon tour, remettre ça dans le pot commun.
D'accord, en effet. Donc, tu étais déjà très sensibilisée à ces notions-là. Et puis, tu as des pratiques après qui profitent après des apprentissages que tu as eus, j'imagine, pendant la formation. Qu'est-ce que tu as appris alors, comme tu connaissais déjà beaucoup de choses du milieu libre, de la culture libre, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, au niveau des connaissances accessibles grâce à cette formation ?
J'ai pu, on va dire, peaufiner mon savoir sur tout ce qui était droit d'auteur, parce que je connaissais un peu, de manière générale, comment ça fonctionnait, mais les cas particuliers, je ne les avais pas en tête. Il y avait beaucoup de choses où c'était plus ou moins vague dans mon esprit, donc là, ça m'a vraiment permis de mettre en pratique tout ça, de creuser ce sujet et de continuer également à contribuer à différents projets. Parce que dans les exercices qui étaient demandés, voilà, fallait contribuer à Wikipédia, OpenStreetMap ou d'autres ressources libres comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne.
Ok, ouais, en effet, dans les exercices, alors toi, tu avais choisi de contribuer, je ne sais plus, à Open Food Facts, je crois, ou alors aussi...
Oui.
Ouais, c'est ça. Alors, tu avais aussi créé une plaquette de présentation à propos de protection des données perso.
Tu as mentionné Open Food Facts, Audrey, c'est ça? Peut-être du coup, Audrey, tu peux nous en dire un petit mot? C'est peut-être quelque chose dont on parle moins souvent ici.
Ah, bah Open Food Facts, c'est la communauté qui va mettre à disposition, on va dire, toutes les fiches nutritionnelles qu'on trouve sur les aliments, avec le Nutri-Score, là, qu'on trouve sur nos boîtes de gâteaux, nos paquets de chips, hein, qui vont nous dire est-ce qu'il y a trop de sucre ou trop de gras dedans. C'est une base qu'on peut enrichir, simplement en prenant en photo les éléments, en rajoutant les ingrédients. Il y a des petits tableurs à remplir, c'est très simple, et... Bah, tout le monde peut s'en servir. C'est d'abord comme ça que, en plus, l'application Yuka, qui est peut-être un peu plus connue du grand public, a démarré. Bon, ce qui n'est pas terrible, c'est qu'ils ont utilisé la base d'Open Food Pact, et puis finalement, ils ont leur propre base qui n'est plus redistribuée à tout le monde.
Ouais, en effet, oui, et c'est une des questions qui restent après, même à l'issue de cette formation, peut-être que tu as appris des notions juridiques à propos des licences libres, etc., mais il y a un rapport d'étonnement à faire à la fin de la formation, et c'est vrai que ce genre de questions de la réappropriation des contenus libres et tout, c'est quelque chose qui te pose des questions encore à la fin ?
Non, maintenant ça va mieux. Ça va mieux. Je continue toujours de partager les différents... contenu que je fais et d'appliquer des licences libres. Donc, ça m'a quand même éclairé sur certains points juridiques et même sur l'histoire un petit peu de tout ça.
Peut-être pour revenir sur ce que tu as dit au départ, tu as dit que tu étais arrivé à la formation avec déjà un certain background. Du coup, tu l'avais acquis où ce background ? C'était des livres que tu avais lus ou tu avais déjà assisté à des formations ?
J'avais participé à ce qu'on appelle des cafés vie privée, où là c'était plus la partie protection des données personnelles qui est mise en avant, mais on s'intéresse quand même à la notion de libre. Après je me suis intéressé à ce que proposait Framasoft depuis quelques temps, j'ai pas mal lu, j'ai regardé beaucoup de conférences aussi sur le sujet, donc à force de lire, d'écouter et de créer, de participer, mes connaissances arrivent toutes seules.
Donc, tu as un métier de pédagogue. Est-ce que tu as intégré certains acquis de la formation Libre Culture et quelques éléments de ton expérience d'apprenant à tes pratiques pédagogiques ?
Alors, pas depuis, parce que je n'ai pas complètement repris mon activité, moi, depuis que j'ai pu participer à la formation. Il n'empêche que je continue quand même de promouvoir tout ce qui est aspect contributif et ça d'en parler autour de moi, notamment de faire la promotion de Libre Cours et de la plateforme. J'en ai parlé à plusieurs personnes qui se sont d'ailleurs intéressées à ce sujet et que j'ai pu avoir en atelier d'ailleurs et qui vont maintenant, j'espère, s'intéresser un peu plus en profondeur à tout cet univers.
Super, bah écoute, c'est parfait, en plus tu passes le mot, bah ouais. Et tu as écrit un livre, tu disais donc, qui est autour du livre, est-ce que tu peux nous en parler, qu'on sache un petit peu plus de quoi ça retourne ?
Alors c'est un livre qui parle de l'histoire des consoles open source, dans lequel il y a des tutos de fabrication pour assembler sa propre machine, et puis pour aussi développer et coder des premiers petits jeux, donc c'est vraiment de l'initiation, et c'est du tutoriel pas à pas. J'ai choisi ce sujet-là parce que personne n'en parlait et il y a vraiment un lien en fait entre l'histoire du jeu vidéo, l'histoire du milieu hacker, maker, la culture libre. Et ça me semblait important quand même de faire cette passerelle parce que moi, c'est deux univers qui me passionnent.
Et a-t-il un titre et un éditeur, ce livre, au cas où les gens voudraient par hasard le lire ?
Ah, alors on peut le trouver chez les éditions d'Uno et il s'appelle Construisez et fabriquez votre console open source.
Magnifique, super Audric. Bah écoute, merci d'avoir participé à l'émission. Si tu veux, on te libère vu l'heure qu'il est, mais on a bien noté le titre de ton livre et on donnerait suite. Merci Audric et puis à une prochaine.
Eh ben merci à vous, merci pour tout ce que vous faites et puis continuez à partager, à diffuser autour de vous. Je pense que le monde ne s'en portera que mieux.
Merci beaucoup. On va essayer maintenant d'appeler une seconde personne qui s'appelle Jean-Charles, mais donc comme on va tenter cet appel en plein milieu de l'émission, il n'est pas certain que cela réussisse. Audrey, si tu veux essayer de continuer à dire des choses pendant que je fais l'appel, tu peux.
Absolument. Alors...
Et puis sinon, eh bien...
Oui, mais on va
coupera.
Réussir à rejoindre Jean-Charles. Alors Jean-Charles, c'est un participant également, un apprenant à une des premières sessions de Libre Cours. Juste un petit détail, ils n'ont pas participé exactement aux mêmes sessions, c'est-à-dire que pendant le confinement, il y a eu deux sessions d'ouvertes en même temps, une session ouverte sur 3 semaines à laquelle a participé Audric, et une session sur 6 semaines à laquelle a participé Jean-Charles. Donc les supports sont les mêmes, la formation est la même, mais c'est vrai que l'investissement n'est pas identique. Hein. Sur 3 semaines, forcément, c'est un petit peu plus chargé, parce que, mine de rien, on en reparlera un petit peu après, mais la formation, c'est vraiment des connaissances théoriques, bien sûr, mais aussi beaucoup d'exercices pratiques et de contributions à la culture libre, qui consiste donc à chaque séquence, parce que la formation est structurée en séquences, à chaque séquence, il y a des rendus qui sont attendus et qui sont corrigés par d'autres pairs, etc. Donc c'est vrai que c'est mine de rien, on apprend bien, on apprend fort, mais donc c'est un investissement sur 3 semaines qu'Audric a tenu, que Jean-Charles a tenu sur 6 semaines aussi.
On a Jean-Charles en ligne, si tout va bien. Audrey, tu as la main.
Magnifique.
Oui, ça, bonjour.
Bonjour Jean-Charles, bonjour, merci d'être avec nous. Alors Jean-Charles, donc je t'ai à peine présenté, je te présente, tu es enseignant, tu es détaché de l'éducation nationale maintenant parce que tu as rejoint le mouvement pédagogique de l'ICM Pédagogie Freinet. Alors peut-être que tu vas pouvoir, en tout cas tu vas pouvoir en parler mieux que moi, c'est sûr. Et tu as participé donc à la première session sur 6 semaines du Libre Cours Libre Culture. De ton côté, pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'inscrire à la formation et est-ce que ça a un lien avec ton métier ?
Alors, j'ai découvert par hasard la formation en bricolant sur Internet, hein, bon, puisque je traîne un peu sur les choses faites par Framasoft et d'autres associations du même genre. Et donc, dans mon travail, là, en tant qu'enseignant travaillant à l'ICM Pédagogie Freinet, je travaille sur la maison d'édition de l'ICM et l'édition de revues pour enfants, etc. Donc, les droits d'auteur, c'était des choses qui m'intéressaient, d'autant que je n'avais pas de formation particulière là-dessus. Et tout le travail autour des licences libres, etc., c'était un domaine qu'on commence à explorer sérieusement de notre côté. Donc l'offre tombait vraiment à pic. Donc du coup, j'ai répondu à cette offre-là et j'en suis au sortir extrêmement satisfait. Hein.
Magnifique. Alors, donc tu as sans doute appris donc des savoirs, des connaissances théoriques aussi. J'en parlais juste avant, pas mal de pratiques dans la formation, mais aussi la formation du Libre Cours Libre Culture fonctionne avec un modèle pédagogique qui est assez particulier, c'est-à-dire que on vous propose des livrables sont requis, je vais y arriver, des livrables sont requis à chaque séquence, et puis ce sont d'autres apprenants qui vont commenter vos rendus. Alors, est-ce que toi, tu as découvert, je ne sais pas, cette pratique-là ? Est-ce que ça t'a inspiré, toi, ensuite, pour ce que tu fais aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as pensé de cette pratique-là ?
Alors ça ressemble quand même à des pratiques et des approches qu'on a dans le mouvement freiné, hein, où il y a un travail autour du compagnonnage, de l'échange entre pairs, etc. Donc ça tombait vraiment bien par rapport à on va dire, la philosophie du travail qui était proposé. C'est vrai que c'était super intéressant comme ça d'avoir des échanges possibles de manière transversale. Et de découvrir aussi d'autres univers que celui dans lequel on travaille chacun de notre côté, quoi.
Tu as déjà contribué à la culture libre, dans les activités professionnelles ou bénévoles. Quels conseils tu peux donner aux personnes, aux auditeurs qui nous écoutent, pour eux-mêmes contribuer ?
Voilà, ça c'est... moi je dirais que ce qui est intéressant pour les gens qui voudraient se lancer en tous les cas ou au moins découvrir, c'est vraiment de se rapprocher d'associations de l'univers du libre. Il y en a souvent proches de nos lieux de domicile, soit qui font des choses physiquement quand c'est encore possible, puisqu'on est de plus en plus restreint, soit sur le net, parce que c'est en étant accompagné aussi que les choses se passent bien, parce que la découverte tout seul, c'est une première étape, mais on risque de se décourager devant ce qui peut apparaître comme des difficultés, alors que quand on est entouré comme ça, ça nous porte et ça accélère en tous les cas la prise de conscience qu'il y a d'autres alternatives possibles et qu'elles sont pas si insurmontables que ce qu'elles peuvent paraître ou ce que la société nous renvoie, quoi. Donc c'est vraiment se rapprocher de formation, de services comme là, quoi. C'était vraiment l'opportunité la plus intéressante à mon avis.
Et tu insistes sur l'accompagnement. Je voudrais rebondir juste sur un travail que tu as produit pendant la formation. Tu avais choisi pour la dernière séquence de diffuser une production originale. C'était un tutoriel sur la suite logicielle Zurit, qui est produite par les CMA. Les CMA insistent vraiment sur l'accompagnement justement de l'adoption des outils libres. Partenariat, je ne sais pas, tu envisages avec les CMA ou pourquoi est-ce que tu avais choisi en tout cas de produire un tutoriel là-dessus ?
Alors moi, avant de regagner le mouvement freiné, je viens des CMA. Donc c'est une association que je connais bien et que j'apprécie énormément. Et au niveau de l'ICEM, nationalement et localement, on a déjà pas mal de passerelles entre les CMA et le mouvement freiné. Donc quand les CMA ont proposé en plein confinement, là, pendant la pandémie, leur offre sous Zurit, bon, ça nous a intéressé en tant qu'association pour pouvoir travailler, mettre à disposition de nos propres militants des outils clés en main de l'univers du libre et qui permettaient vraiment de travailler. Donc on s'est rapproché naturellement des camarades des CMA. Et ils nous ont offert et ouvert gratuitement un espace conséquent de travail gratuit qu'on utilise encore là aujourd'hui. Et donc là maintenant, on doit nous en tant qu'ICEM voir comment on va continuer ce partenariat. Donc les CMA, bon, eux avancent et proposent maintenant des versions payantes, pas très chères en fait, d'un service qui fonctionne super bien. Donc on est très content de l'avoir testé, d'avoir aussi participé à cette expérimentation. Maintenant, nous, on va décider en tant qu'association différente des CMA des suites à donner à l'expérience. Soit continuer avec eux, soit essayer de collaborer plus précisément pour développer des applications particulières ou avec leur aide, créer notre propre espace de travail.
Avec des documents sous licence libre.
Donc, du coup, les documents sous Zurit sur lesquels j'ai travaillé, c'est vraiment des documents destinés aux camarades de l'ICEM pour découvrir et explorer l'offre des copains et des copines des CMA. Et ça fonctionne plutôt bien.
Ok, magnifique. Merci. Merci Jean-Charles pour ton témoignage. On va te libérer, mais... Mais j'entends un écho, pardon, c'est pour ça. Eh bien, Jean-Charles, on te retrouve peut-être toujours aux alentours de l'écosystème de Livrecours, hein, parce qu'on continue de discuter sur Mattermost. Et puis, on te souhaite une très bonne continuation. Et merci encore.
Au revoir, Jean-Charles, à très bientôt.
Au revoir, et merci beaucoup encore pour cette formation qui était super riche, quoi.
Merci à toi.
Et bien maintenant, après ces deux interviews, on vous propose d'écouter un petit morceau de musique. On va écouter maintenant Sister School de Flathead. C'est en licence CC by NCSA. À tout à l'heure.
Disturbing quiet boys, well out of reach. Place apprentice sinner in purifying bleach. Chant around the cauldron, nauseously drown
De retour dans la voie libre, donc on vient d'écouter Sister School de Flathead. Un petit récapitulatif juste de ce qu'on a dit à propos de la formation Libre Culture. Donc pour l'historique, Libre Culture, c'est une formation qui est proposée par Framasoft. C'est une idée originale à toi, Stéphane ?
Oui, plus ou moins. Disons que c'est plutôt l'héritage d'une rencontre avec Calimac, qui était venu à l'UTC faire une formation de 2 heures sur le droit d'auteur et les licences libres. On en avait profité également pour passer toute la journée à enregistrer des modules. Et on continuait en moi d'approfondir cette thématique. Et je me suis dit que c'était une façon aussi de se réapproprier le travail qu'on avait effectué avec lui et donc de le transformer en quelque sorte. Mais une grande partie des contenus sont issus du travail qu'on a fait avec lui, que j'ai réarrangé un petit peu, on va dire, pour en faire cette version-là.
Ok, et en effet, cette formation s'inscrit aussi dans une initiative de Framasoft dont on vous a sans doute déjà parlé, qui s'appelle Contribute Utopia, et qui consiste là en particulier à l'idée d'ouvrir une université populaire du libre, voilà, ouverte, accessible et décentralisée, si on veut tout l'acronyme qui applaudit. Donc Libre Culture s'intègre là-dedans. Rapidement, donc.
On avait fait une émission sur le MOOC chaton, il me semble,
oui.
Non ? Voilà, oui. Donc le MOOC chaton, aujourd'hui, c'est une des deux autres pièces, on va dire, du début de ce puzzle qui est en train de se construire.
Et oui, et le programme de Livre Culture, donc, on vous a dit, on parle côté droit d'auteur, on apprend la différence, par exemple, entre le droit moral, le droit patrimonial, les différentes lois qui s'appliquent vis-à-vis du droit d'auteur dans l'environnement numérique, on apprend comment citer, réutiliser du contenu sans plagier, et aussi côté licence libre, donc on apprend comment fonctionnent les différentes licences, Creative Commons en particulier, comprendre leurs clauses, on apprend à les utiliser pour ses propres productions et à réutiliser du contenu sous ces licences également. Voilà, on apprend aussi avec des exercices pratiques à trouver une multitude de ressources culturelles libres et puis à contribuer, comme on en parlait pendant avec Audric et Jean-Charles, donc à un ensemble de connaissances théoriques, des exercices pratiques pour avoir à la fin de la formation une véritable expérience de manipulation des licences libres et des expériences de pratiques culturelles libres. Voilà. Alors concrètement, ça se passe comment pour Audric et Jean-Charles, donc avec d'autres apprenants et apprenantes, ils faisaient partie de deux sessions, une sur trois semaines et une sur six semaines. Donc on peut s'inscrire sur librecours.net. Et Stéphane, tu as ouvert une session qui reste ouverte maintenant. C'est une session intemporelle.
Oui, l'idée c'était que effectivement là, dans les deux premières sessions qu'on a ouvertes, eh bien il y a un début, une fin. Donc voilà, faut commencer au début et terminer à la fin. Ça demande un petit peu d'organisation et puis on l'a bien vu, Audrey, nous, de ressources côté encadrement. Donc on va en ouvrir d'autres. Hein. On s'est engagé et puis également les apprenants qui ont participé vont également en ouvrir d'autres. Donc il y en aura d'autres. Mais en attendant, on a choisi d'ouvrir au moins une session dite intemporelle. C'est-à-dire que là, n'importe qui peut aujourd'hui se rendre sur librecours.net, consulter les contenus et même s'il le souhaite, s'inscrire et pourquoi pas déposer ses devoirs. On a ouvert ici une équipe Mattermost pour discuter. Bien sûr, il n'y a pas forcément la disponibilité d'un encadrement. Mais par contre, si les gens sont plusieurs, échangent entre eux, etc. Et sinon, on a une petite tête qui passe de temps en temps, ça peut être une façon au moins de s'initier et de commencer ou même d'aller plus loin si on est motivé pour y aller tout seul.
Yes, magnifique. Et en effet, une particularité de cette formation, c'est bien la charte du participant qui veut que les apprenants qui valident la formation avec un bon niveau, enfin qui valident la formation, s'engagent ensuite à devenir formateurs en fonction de leur disponibilité. Et c'est vrai que le travail d'encadrement et d'animatrice fait apprendre énormément. Je pourrais en témoigner moi-même, mais c'est vrai que le fait d'animer, d'encadrer, ne nécessite pas du tout d'être spécialiste, en tout cas ce n'était pas mon cas, et on apprend énormément grâce aux apprenants et on apprend une diversité de domaines culturels également, donc c'est très très intéressant de ce point de vue là. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette émission sur la formation Libre Culture. Alors cette formation s'appuie sur une plateforme qui s'appelle Libre Cours, dont Stéphane, peut-être tu souhaites nous parler, mais peut-être qu'on fera une seconde émission pour creuser vraiment le sujet et de voir comment fonctionne cette plateforme, quels sont ses principes, etc.
Oui, effectivement, on reprendra peut-être du temps pour ça. Mais Libre Cours, donc pour le moment, c'est un projet une expérience concrète, donc qui est disponible pour le moment sur librecours.net. On peut donc y trouver notamment des cours à moi. On va y trouver bientôt un grand nombre de modules d'introduction à l'informatique sur lesquels j'ai travaillé notamment avec des étudiants de l'UTC et puis l'entreprise Studi au semestre dernier. Donc là, il y a une cinquantaine de modules, donc quelque chose comme à peu près 200 heures de formation qui vont arriver sur initiation à la programmation, initiation au système. On travaille également sur d'autres modules en parallèle, notamment avec Picasso. Donc voilà, donc il y a plein de nouvelles choses qui devraient arriver dans le courant de cette année.
Et c'est un teasing donc pour une prochaine émission et puis pour d'autres formations qui arrivent. Ne manquez pas d'aller voir sur librecours.net tout ce qui s'y passe. Et puis, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Bonne journée à vous et à la prochaine. Salut Stéphane, salut Romain, salut à vous.
Salut,
au revoir. Au revoir.